Les débuts littéraires de Verga n'ont été que peu étudiés et la critique s'est concentrée sur sa période dite mondaine et sur ses deux grands romans siciliens, I Malavoglia et Mastro Don Gesualdo. Il existe cependant un autre Verga sicilien, un Verga en formation, bien sûr, un écrivain marqué par la culture locale, mais aussi un témoin direct de l'unification italienne et du rattachement de la Sicile à la monarchie des Savoies, un témoin dont le grand-père paternel, libéral et carbonaro, avait été député de Vizzini et avait soutenu la Constitution de 1812, un écrivain qui a grandi dans la mémoire des événements de 1848 et de la répression de 1849. Or, les trois premiers romans de Verga, Amore e Patria, I Carbonari della Montagna et Sulle Lagune, sont écrits entre 1856 et 63, au moment donc où se fait l'unité politique de l'Italie, dont Verga est également un acteur enthousiaste. En effet, le jeune homme interrompt l'écriture de son second roman, d'avril 1860 au premier jour de juin, qui suit le soulèvement des Catanes du 31 mai et s'engage dans la garde nationale. Les éléments du Risorgimento, qui transparaissent dans Amore e Patria, à travers les aventures des combattants de l'indépendance américaine, dans I Carbonari della Montagna, à travers la résistance de Corrado au pouvoir de Murat en Calabre en 1810, et dans Sulle Lagune, à travers l'histoire de Stefano de Keller, patriote hongrois, ami des Vénitiens sous occupation autrichienne, sont donc le résultat d'une expérience à la première personne. Certes, le style du jeune Verga est parfois encore celui d'un écolier, maladroit, souvent déclamatoire. Mais Amore Patria est écrit entre le 23 décembre 1856 et le 26 août 1857, alors que Verga n'a que 16 ans. Il en a tout juste 20 quand il écrit I Carbonari della Montagna et Sulle Lagune. De ce fait, Federico De Roberto admettait déjà l'évidence des manques et des défauts de ses œuvres, mais il estimait toutefois plus utile d'y chercher, je cite, « i primi bagliori del suo precocissimo genio ». De Benedetti, en revanche, estimait plus opportun de se demander pourquoi ce génie n'était pas encore dans ses œuvres. Nous ne nous occuperons pas ici de ces questions et tenterons d'éviter dans un sens comme dans l'autre toute téléologie littéraire. Nous nous intéresserons cependant à la façon dont, malgré une distanciation spatiale et ou géographique, Verga nous raconte dans ses premiers romans le Risorgimento et les luttes sociales qui suivent l'unité, avec un enthousiasme réel, souvent sentencieux, mais aussi avec l'angoisse palpable de la guerre civile. Ce qui frappe tout d'abord à la lecture de ces trois romans de jeunesse, c'est le contraste entre une volonté de précision historique, qui transparaît dans les nombreuses dates, et la minutie dans l'évocation de faits consignés dans des ouvrages d'historiens, et l'idéalisation des personnages qui luttent pour l'indépendance et la liberté, accompagnée d'une présentation trop souvent manichéenne des forces sans présence. Les trois premiers romans de Verga font ainsi très précisément référence à l'histoire et trahissent un intérêt certain du jeune auteur pour cette discipline. L'étude de sa bibliothèque nous apprend en effet qu'il se passionnait pour les livres d'histoire. Une liste des ouvrages historiques que Verga a lus dans sa jeunesse a été dressée par Carmelo Musumara et on peut remarquer que nombre d'entre eux traitent de la Révolution américaine et ont donc pu servir à l'écriture d'Amore e Patria. Il semble en outre que Verga se soit servi pour écrire I Carbonari, de la Storia del Reame di Napoli, de Colletta, et de la Storia d'Italia dall'anno 1789 all'anno 1814, de Botta. Cependant, Verga a croisé ses sources et les a complétées afin de créer une œuvre de fiction qu'il a toutefois située dans un cadre spatio-temporel précis, celui de la Calabre de 1810. De même, le premier chapitre de Sulle Lagune commence par un ancrage temporel, la date du dimanche 10 février 1861, Verso Sera, trois mois après les événements narrés dans le prologue. Enfin, les échanges épistolaires qui caractérisent la fin de ce roman sont datés et trahissent la lecture des Ultime Lettere di Jacopo Ortis, marquée elle aussi par une déception patriotique, celle qu'a entraîné le traité de Campoformio. On remarque donc que les cadres spatio-temporels de ces romans se rapprochent progressivement de l'actualité italienne que vivait Verga, jusqu'à aborder la question de la Vénétie, restée autrichienne après 1861. Cependant, cette actualité était déjà sous-jacente dans Amore e Patria et dans I Carbonari della Montagna, à travers bien sûr le thème abordé, la lutte pour l'indépendance et la liberté, mais aussi dans le paratexte. On peut citer la préface des Carbonari, dans laquelle Verga a écrit avoir commencé le livre le 11 juillet 1859, In un giorno di lutto nazionale, celui du traité de Villafranca, par lequel Napoléon III, effrayé par l'hécatombe de Solferino et sans avoir consulté Cavour, recevait la Vénétie et la cédait au Piémont, tandis que la Lombardie et la cédait au Piémont, tandis que la Vénétie restait sous domination autrichienne. Dans cette préface, Verga fait également référence aux événements qui se sont déroulés à Catane du 11 au 15 mai 1860 et dont il fut un protagoniste. En effet, Federico de Roberto nous apprend que il Verga era sul più bello quando la gravità degli avvenimenti reali lo distorse dalle finzioni. Il interrompt donc son roman. Garibaldi era sbarcato in Sicilia, aveva vinto a Calatafimi, si avanzava verso Palermo, squadre di cittadini e contadini si raccoglievano nelle campagne dell'Etna per scendere a Catania e liberare la città dalla guarnigione borbonica. I pressi di Casa Verga erano uno dei punti strategici. Inerpicato sulla terrazza, per meglio osservare la scena, il Verga si vide piovere intorno le pallottole delle fucilate tratte dal castello Ursino e fu quindi costretto a discendere dai suoi, ai quali un ufficiale venne a chiedere di poter occupare il cortile. Quantunque quella richiesta di permesso dimostrasse che la stessa autorità militare non aveva più la forza morale di imporsi, non fu perciò meno animoso lo zio dello scrittore, che non solamente oppose un rifiuto, ma ordinò anzi che si serrasse senz'altro il portone. On retrouve par ailleurs ce même enthousiasme patriotique dans l'épilogue des Carbonari, qui fait explicitement le lien entre les luttes de 1810 et celles de 1860. La croce, la croix qui orne la tombe du héros, doveva risplendere come l'occhio di Dio sul risorgimento italiano, dal campo di Novara fino allo sbarco di Marsala. Attorno a quella croce, splendente dal Campidoglio, 26 milioni di italiani dovranno genuflessi benedire il sangue e l'eroismo delle sue vittime più generose, dei suoi propugnatori più grandi, dal primo Carbonaro a Carlo Alberto, a Vittorio Emanuele, a Garibaldi. Cependant, si les textes de Verga s'ancrent dans l'histoire, même lorsqu'ils narrent des aventures amoureuses particulières, ils ne semblent pas la problématiser. Le jeune Catanet la met en scène de façon très didactique et cristallise les forces en présence à travers des personnages qui manquent souvent de nuances et de réalisme. En effet, l'esthétique de l'époque, comme l'expliquait Federico de Roberto dans son essai sur le roman Amore e Patria, ne rejetait pas une contraposition, souvent manichéenne, du bien et du mal, visant à provoquer l'horreur et la pitié, la catharsis grecque. Cette contraposition se rencontre dans chacun des trois premiers romans de Verga, puisque dans Amore e Patria, les Anglais sont hypocrites et sans pitié, tandis que les soldats américains au grand cœur brisent leurs chaînes. Le héros Eduardo refuse ainsi de tuer l'officier anglais Butchirid car il n'est pas généreux de tuer un ennemi qui n'est pas en état de se défendre. Plus tard, dans I Carbonari della Montagna, les Français sont débauchés et cruels et emprisonnent le père de l'héroïne, Giustina, par la ruse. De même, le couple royal est placé sous le signe de la trahison. Enfin, dans Sulle Lagune, le rideau s'ouvre sur la violence des policiers autrichiens qui répriment une manifestation patriotique pourtant pacifique. Et le comte de Crouen, principal personnage autrichien, est un homme débauché, manipulateur et cruel, derrière une civilité rigoureuse et froide. Tandis que les personnages italiens et le héros hongrois Stefano sont les incarnations idéalisées, héritées du romantisme, de la simplicité de mœurs et de la noblesse d'esprit, mais aussi des forces vives de l'amour sincère et du patriotisme. Toutefois, cette contraposition est particulièrement visible dans les portraits des personnages que Verga dessine avec précision à chaque entrée en scène, nouant indissolublement l'âme et le corps, et ce non sans reprendre de nombreux topoi romantiques. Ainsi, à propos de l'héroïne des Carbonari, Giustina, Verga écrit « Il suo viso, benché alquanto pallido, è della bianchezza pura e diafana che svega l'aristocrazia del sangue. » L'auteur attribue à cette femme idéale la pureté d'un portrait de la Renaissance, l'élégance française et la profondeur d'une odalisque orientale. De même, le portrait que fait Stefano de Giulia dans Sulle Lagune regorge de superlatifs et esquisse un être unique et angélique. Parmi les personnages masculins positifs, Corrado, le chef de la charbonnerie, est bello e giovane, misterioso ideale, in quell'attitudine ferma e risoluta, col suo gesto imperioso ed il suo sguardo brillante d'orgoglio e di sovranità, delicato ed elegante come una creazione poetica. quello sguardo altiero, deciso e potente, che rivelava un'anima fervente, era sceso fino al fondo del cuore di Giustina, che sembrava fatto apposta per riceverlo. On remarque ici la statuaire risorgimentale, et on remarque également que le jeune auteur semble conscient de mettre en scène un personnage ideale, una creazione poetica. On peut donc faire l'hypothèse que cette idéalisation est autant esthétique, sinon plus, à rapprocher d'un romantisme exacerbé que politique. En outre, les personnages négatifs font eux aussi l'objet de portraits qui mettent en lumière d'emblée leur âme noire, non sans manichéisme. Ainsi, dans I Carbonari della Montagna, le personnage de Liscard, un Lyonnais ayant choisi de rejoindre les Italiens pour combattre les Jacobins, est perçu comme un traître à la France par Giustina, pour qui la patrie est une valeur suprême qu'on ne peut renier, même en cas de désaccord politique profond. Liscard trahira d'ailleurs également les Carbonari. Cette traîtrise semble d'ailleurs consubstantielle au personnage et transparaît dans son regard, dont le caractère changeant s'oppose au caractère décidé de celui de Corrado. Je cite « Senza l'espressione del suo sguardo, la sua bellezza poteva attrarre l'attenzione. Per uno strano contrasto aveva le sopracciglia nere e gli occhi di un celeste molto chiaro. L'iride di quegli occhi era sì trasparente che assumeva, direi quasi, tutti i colori. Ora si faceva bianca, come quella di uno spettro. Ora prendeva un riflesso verdognolo come lo sguardo del vampiro. Ma quando rimaneva di quel celeste sì puro, quegli occhi erano belli e per conseguenza anche il volto in cui brillavano. L'aspect caricatural qui résulte ici de l'usage des connotations des couleurs est encore plus marqué dans Sous les lagunes, lors de la première apparition du comte de Cruen. Je cite. Alto, piuttosto magro, vestiva rigorosamente di nero con quella stecchita eleganza della burocrazia austriaca. La fisionomia di costui colpiva, però, per quell'aria di astuzia e di sottile furberia, particolare agli impiegati della polizia che governa a Venezia, caratteri a cui il cuore è negato o deve battere soltanto per istinti cattivi. On remarque que Verga attribue ici un air caractéristique reconnaissable à une catégorie sociologique extrêmement précise, celle des policiers de Venise, et la ferveur patriotique s'exprime ici aux dépens de la vraisemblance. En outre, le manichéisme et les emprunts au topoï romantique sont également perceptibles dans l'action racontée. Ainsi, les héros sont souvent inférieurs en nombre, mais ils sont justes et nobles, comme leur cause. Ils ressortent souvent vainqueurs. C'est le cas dès l'incipit d'Amore et Patria, qui s'ouvre sur un moment d'abattement de l'armée américaine, qui ne compte plus que poche centinaia di soldati scoraggiati dalla sconfitta, decimati dal vaiuolo, mancati di provisioni, d'armi, di bagagli, mais qui atteindra tout de même la victoire. Ce lieu commun apparaît d'ailleurs à nouveau dans l'essai de Federico De Roberto sur I Carbonari della Montagna, lorsqu'il raconte squadre di cittadini e contadini si raccoglievano nelle campagne dell'Etna per scendere a Catania a liberare la città dalla guarnigione borbonica. Il marchese di Casalotto, poi deputato e senatore, si poneva a capo, in tuba e guanti gialli, d'un manipolo di quei picciotti male armati e poco agguerriti, mentre il generale Clary disponeva a difesa le sue numerose e munitissime truppe. Les partisans du Risorgimento se voient en outre conférer une dimension surnaturelle. Ainsi, Giustina est-elle comparée à Maria ai piedi della Croce ou à Diane. Parfois, l'idéalisation donne même naissance à une légende. C'est le cas de la croix de Corrado, évoquée plus haut. Et après la mort de Pierotto, le bon brigand du livre, de nombreux habitants de la région le croient encore vivant dans une grotte fantastique au milieu des bois, et d'autres affirment l'avoir vu vivre une vie d'ermite. Le narrateur refuse de trancher et contribue à cette dimension mythique en déclarant « Ma noi non possiamo avvalorare queste supposizioni. Forse, colpito dalle palle dei suoi stessi compagni o naufragato nella tempesta, sarà perito come era il suo scopo fra i gorghi dell'oceano, sacrificandosi alla sua patria. Forse, ancora, scampato prodigiosamente alle palle e alla tempesta, avrà cercato un rifugio ai rimorsi che dovevano tormentarlo, nel pentimento e nella contemplazione di una vita migliore. De même, à la fin de Sulle Lagune, on ignore si Stefano et Giulia sont parvenus à atteindre Chioggia en gondole. Ces mystères réapparaîtront d'ailleurs dans la prose verbienne, notamment sous la forme de la Camera del Prete, de la nouvelle Festa dei Morti. D'autre part, on est tenté de les rapprocher des légendes nées des disparitions de brigands dans les années qui ont suivi l'unité, dans le cadre cette fois d'une mythologie anti-risorgimentale. Toutefois, on observe dans ces trois textes de Verga des emprunts au lexique religieux bien éloignés cette fois de la religiosité populaire des légendes et qui esquissent le thème de la rédemption de la patrie. Dans ce contexte lexical, la volonté des carbonari de cacciare i francesi come abbiamo cacciato gli austriaci e da ogni parte i forestieri nous semble rappeler l'exhortation de Machiavel ad capescendam Italiam in libertatem quae a barbaris vindicandam. En outre, dans un texte visant à faire la promotion de ce roman, Verga écrivait que « aspirazione e sacrificio hanno effettuata la redenzione d'Italia » et que si la charbonnerie a commis des erreurs, « li ha espiati eroicamente nelle stragi e sui patiboli del 1810 e 1821, purificato dalle sue prove, dalle sue sofferenze, dai suoi martiri, il voto di 25 milioni di popoli, che non aveva più bisogno ora di maschera, attraverso il sangue dei suoi apostoli, i patiboli ed il cannone, hanno camminato sempre sino a Novara. » On a donc ici des références explicites à la figure christique. Toutefois, le manichéisme qui caractérise la représentation de l'histoire dans les premiers romans de Verga n'est pas qu'un effet de sa ferveur patriotique et de sa jeunesse et de son inexpérience. Il témoigne également du goût de Verga pour le roman historique et pour un genre littéraire qui connaît un développement fulgurant au XIXe siècle, le roman feuilleton. En effet, l'époque et le lieu qui voient la composition des trois premiers romans de Verga sont tout d'abord propices au roman historique. L'œuvre de Manzoni, mais aussi celle de Domenico Castorina et du maître de Verga, Antonino Abate, ont influencé le jeune auteur, par ailleurs fervent admirateur de Dumas père. Ainsi, le roman I Carbonari della Montagna a pour sous-titre Romanzo Storico et est envoyé en hommage à ce dernier. Il faut donc se rappeler que, comme les œuvres de Dumas, les romans historiques de Verga sont avant tout des romans, donc des œuvres de fiction, même si elles sont fondées sur l'histoire passée et présente, et les rebondissements et invraisemblances n'ont rien d'étonnant. Toutefois, leur récurrence et leur densité rapprochent ces œuvres du roman feuilleton. On peut donner l'exemple de la trame d'Amore Patria, dont le héros, Eduardo di Walter, est un soldat intrépide et patriote, mais aussi amoureux d'Eugenia, et sacrifie son amour à ce qu'il considère comme son devoir, c'est-à-dire la lutte pour la liberté. Seulement, une autre jeune femme, Clary, s'est éprise d'Eduardo et repoussée, jure de se venger, et séduit un officier anglais, Buccigi, qui lui promet de lui livrer le jeune soldat américain. C'est là que ça se complique. Eduardo est quant à lui fait prisonnier par des brigands après une victoire, mais libéré par un bon brigand, Pierotto Wolf, qu'on a évoqué plus haut, qui avait déjà sauvé son père. Toutefois, Eduardo est cette fois fait prisonnier par les soldats anglais et remis à Buccigid qui l'offre à Clary. Le bon brigand intervient à nouveau pour le sauver. Buccigid, pour se venger, tente de séduire Eugenia. N'y parvenant pas, il met le feu à la ferme où la jeune fille et son père sont réfugiés. Eduardo la sauve des flammes, mais Buccigid réussit à s'approcher d'elle en se faisant passer pour Eduardo, lequel arrive in extremis pour l'empêcher de la tuer. Eduardo refuse cependant de tuer Buccigid en position d'infériorité et lui propose un duel au revolver. Buccigid tire et manque Eduardo avant le début du duel. Eduardo lui propose alors un duel à l'arme blanche, mais le père d'Eugenia arrive et demande à tuer lui-même l'anglais. On remarque donc le nombre important de coups de théâtre, le nombre important d'astuces types du roman feuilleton. Et à ce dédale de l'intrigue s'ajoute l'invincibilité surnaturelle du héros que les balles effleurent toujours sans jamais le blesser. De même, si le roman historique I Carbonari della Montagna, qui raconte l'histoire de la résistance des charbonniers de Calabre contre les Français de Murat, est centré sur la figure de Corrado, Carbonaro à la tête d'une petite armée qui prône l'unité des patriotes italiens, il reste parsemé d'équivoques et de coups de théâtre. En effet, Giustina pense d'abord que son cousin, Francesco, est le chef des Carbonari, avant de voir sortir de nulle part le véritable chef, Corrado donc, qui apparaît et disparaît ensuite à de nombreuses reprises, véritable Deus ex machina, qui se laisse tuer pour sauver sa belle. Enfin, dans Sulle Lagune, le lecteur fait d'abord connaissance avec le patriote italien Collini et son ami hongrois Decaler, qui donne d'ailleurs une dimension européenne au Risorgimento, qui s'est entiché d'une jeune fille qui semble vivre recluse dans un palais vénitien. Par la suite, de nombreux mystères et quiproquos se succèdent les uns derrière les autres. Descalaires croit d'abord que cette jeune fille est une femme entretenue par un haut fonctionnaire autrichien, avant de découvrir peu à peu qu'elle n'a accepté de vivre avec lui que pour être plus près de son père, emprisonné pour ses opinions politiques. On apprend ensuite qu'elle est en fait la sœur de l'ami de Keller, Collini, auquel elle n'a rien dit de l'arrestation de leur père. Enfin, Collini découvre que l'arrestation de ce dernier n'était pour l'Autrichien Cruen qu'un prétexte pour pouvoir mettre la main sur la jeune femme. Le chapitre final de Sous les lagunes est trahi d'autre part l'influence du mélodrame. La fuite incertaine du couple protagoniste donne lieu à des déclarations d'amour dans un décor aquatique nocturne stéréotypé et à une transformation soudaine du désir de mort en désir de vie qui rappelle les dénouements des livrets romantiques. Cependant, les événements historiques et politiques n'ont pas que des conséquences sur les destinées individuelles. Ils ont également des répercussions sociales à grande échelle. On observe en effet déjà dans ces œuvres du jeune Verga une représentation de la société ainsi que des luttes politiques et sociales qui trahissent une réflexion sur ce thème et une vision qui évolue sous l'influence à la fois des maîtres et amis de Verga et des événements historiques. Tout d'abord, les trois romans de Verga semblent avoir pour but de montrer l'importance de l'unité d'un peuple afin de combattre une domination étrangère. Cependant, on remarque que les classes intermédiaires ne figurent pas dans ce tableau, qui juxtapose la noblesse et le petit peuple. En outre, si l'indépendance de la noblesse des âmes vis-à-vis de celle du sang est affirmée, une hiérarchisation sociale est palpable, qui se décline en différentes nuances, du paternalisme bienveillant au conflit lié au brigandage. Le chapitre « Miseria e rassegnazione » du premier roman « Amore e patria » commente ainsi une visite de charité, mais sur un ton de polémique sociale, qui trahit l'influence des Lumières et de l'humanitarisme du XVIIIe siècle, ainsi que du romantisme. I fatti dimostrano che le virtù praticate negli abituri sono più eroiche di quelle sfoggiate sotto le volte dorate, forse per lo scopo di raggiungere lodi e fama, perché appunto senza speranza di encomi o di ricompense. Dans le roman I Carbonari della Montagna, il est en outre écrit que il cuore umano batte lui stesso sotto i cenci e sotto i veluti ricamati. Nobles et humbles paysans combattent d'ailleurs ensemble. Le narrateur nous invite ensuite à excuser la condescendance de Giustina. Je cite: La giovinetta non era superba, ma per l'influenza dei sentimenti coltivati in quel tempo, credeva seriamente alla differenza del sangue. Non incolpiamola di questo difetto, ma vediamo piuttosto il tempo in cui quel sentimento le fu radicato. Il faut toutefois nuancer ce propos. Le château de San Gottardo est en effet au centre du roman et on trouve au chapitre Nobiltà 1810 une exaltation des valeurs de la noblesse, qu'on tue mais qu'on ne piétine pas, et plus tard l'affirmation qu'on ne peut pas pendre haut et court un noble comme on pendrait le dernier des plébéiens. L'élégance naturelle de Giustina et le portrait du comte, bravo senza essere rodomonte, nobile senza esagerazione, generoso ma non prodigo, altiero senza superbia, tal che, mentre parlandovi vi faceva conoscere la distanza che vi separava da lui, tendent à accréditer l'idée d'une hiérarchie sociale naturelle. Ces prises de position ne sont pas toujours attribuées à des personnages, et il semble raisonnable de penser que la voix du narrateur est proche de celle de Verga. Le jeune auteur semble donc pris entre des idéaux qui sont à la fois ceux des Lumières et ceux du romantisme, et une conception sociale conservatrice, d'autre part. On a parfois dit d'ailleurs que la position politique de Verga, démocratique et proche des Mazzini, sous l'influence d'Antonino Abate dans Amore e Patria, était devenue monarchiste et modérée dans I Carbonari della Montagna. S'il y a bien une évolution, notamment perceptible dans le traitement du thème du brigandage, la position de Verga dans I Carbonari della Montagna est plus hétérogène que cela, et une polémique gallophobe et antinapoléonienne, mais aussi des éléments de l'enseignement d'Antonino Abate, viennent s'ajouter aux éléments évoqués dans le style tumultueux d'un romantisme exacerbé. Une chose est certaine cependant, la figure du bon brigand, adjuvant indispensable à la trame d'Amore Patria, disparaît par la suite pour laisser place à l'angoisse de la guerre civile. Dans le premier roman, Pierotto Wolf était encouragé à fuir pour aller mourir pour sa patrie et répondait en ces termes: Ora, se io mi sacrifico alla patria, non è più per cercare una morte come termine all'inferno che mi divorava, ma come un lavacro alle mie colpe e come un tributo alla terra che mi vide nascere. e le narrator commentait ainsi: Egli non era stato tanto scellerato quanto infelice, ma la intrepida audacia del brigante si arrestò innanzi l'ombra nuda e squallida dell'eternità. Il sorriso del cinismo aveva segnato la prima ora del delitto. La lacrima del pentimento ne aveva segnata l'ultima, la prima di una vita regenerata. Dove sempre aveva trovato rimorsi e memorie di sangue, un'arcana confidenza, una speranza suprema colorava tutto di pace e quiete. Dans le roman I Carbonari della montagna, au contraire, le décor américain qui rappelait fortement les paysages siciliens cède la place au monde de Calabre et le brigandage prend un visage plus menaçant, celui sur lequel les Bourbons s'appuient pour discréditer les Carbonari, celui de la guerre civile fratricide. Carbonari et brigands deviennent ennemis, l'écho de la révolte de Bronte se fait entendre. L'idéalisation du peuple qui caractérisait Amore Patria est bien encore présente dans le prologue de Sulle Lagune, mais dès les Carbonari, le peuple est également susceptible de rallier le brigandage. Selon Mazzamuto, le changement des idées politiques et sociales perceptibles dans Amore Patria et I Carbonari est un moment décisif de l'histoire intellectuelle de Verga, celui du choix entre libéralisme démocratique et républicain d'Abate et le libéralisme monarchique de sa famille et de sa classe sociale. Ce changement est aussi lié à la prise de conscience en Sicile, autour de 1857, donc après la rédaction d'Amore Patria, des forces en présence. D'un côté, Pisacane souhaitait faire coïncider révolution politique et révolution sociale, je procède moi aussi à coup de serpe ici, et mourait sous les coups des paysans du Cilento. De l'autre, le programme modéré de Vittorio Emanuele Cavour garantissait à la fois la constitution et l'ordre social, et rappelait à l'aristocratie sicilienne l'expérience constitutionnelle de 1812, fondée sur un modèle plutôt anglais que français, plus enclin à l'émancipation politique qu'au renversement socio-économique. La définition de la charbonnerie dans I Carbonari della Montagna est d'ailleurs significative de cette évolution. Il ne s'agit pas d'une setta democratica repubblicana, ou piuttosto brigante, mais de gentiluomini che non possono più soffrire il dominio forestiero e vogliono riaccostarsi alla corte per cacciare l'usurpatore e restaurare il loro re legittimo. Le lecteur peut aisément assimiler ce roi de 1810 à Vittorio Emanuele et ces gentiluomini aux propriétaires et intellectuels aristocrates modérés qui seront les piliers de la garde nationale, dont Verga a fait partie, et les premiers dirigeants de la Sicile italienne. Le refus des Carbonari du roman de porter atteinte à l'ordre et à la propriété et le rejet du brigandage prennent alors tout leur sens. En outre, ces positions se retrouvent dans les journaux catanais de l'époque. Le Giornale di Catania insiste dans les différents numéros de l'été 1860 sur l'ordre qui règne en Sicile et dans le Roma degli Italiani, pour l'écriture duquel Verga collabore avec Niceforo et Abate, on lit encore le 5 octobre 61 une référence au proclami raccomandando l'ordine e la quiete à Bologne. Il est également écrit qu'à Nicosia, un pugno di masnadieri disturbavano l'ordine pubblico e le strade. Ma da che il bravo cittadino Giovanni Pracanica, capitano dei militi a cavallo, giunse in quel paese, i masnadieri scomparvero. Ces appels au calme répétés trahissent l'angoisse des troubles sociaux du brigandage et de la guerre civile qui est envisagée dès les premières pages des Carbonari, par Giustina en ces termes. E questa guerra sarà una guerra funesta, una guerra senza gloria. Sarà la guerra del padre contro il figlio, del fratello contro il fratello. E gli occhi della fanciulla presero l'espressione della tristezza e della riflessione. Che diavolo mi vai parlando di padri e di figli? Interruppe vivamente il vecchio gentiluomo. Voglio vedere chi sarà quell'italiano che trarrà la spada a difendere questi tristi giacobini. No, vi sarà una metà della popolazione che sarà per lo straniero. Ve l'assicuro, padre mio, è il destino fatale di questo flagello di Dio chiamato guerra civile. Ma i tristi e i cattivi che compongono questa metà non cesseranno di essere nostri concittadini, non cesseranno di avere dei figli e delle madri che li amino. Ce thème central de la guerre civile réapparaît à plusieurs reprises dans le roman et culmine avec la trahison de la reine Maria Carolina de Bourbon, racontée par Corrado. Il giorno in cui i Borboni hanno voluto percuotere la carboneria e le speranze d'Italia, l'hanno fatto col mandarci questi aiuti, les brigands donc, dalle galere. Io avevo un triste presentimento e ne avevo parlato alla regina. La regina ha promesso, ora, fa la pace con Bonaparte, la carboneria le aide in pace e la distrugge. L'accusation contre la reine se répercute en outre sur toute la dynastie. La lecture de ces trois romans, dont Verga n'ira plus tard, pardon, dont Verga ne parlera plus tard qu'aux célébrations de ses 80 ans, nous permet de prendre conscience du style et de la vision historique qui furent le point de départ du travail d'écrivain de Giovanni Verga. Et comme nous y invitait déjà Federico De Roberto, in tal modo si potrà misurare la grandezza dello sforzo che egli dovette compiere, la serietà dell'impegno contratto con se stesso quando si propose di divenire scrittore. Mais ses œuvres de jeunesse restent également un document historique qui nous permet d'étudier la vision de la société italienne que pouvait avoir ce jeune écrivain sicilien enthousiaste à l'idée d'une Italie unifiée. Son aspiration à la liberté, conçue comme indépendance et comme unité, cohabite avec une position sociale encore instable, influencée par le républicanisme d'Antonino Abate, son premier maître, mais aussi par le conservatisme social de la majeure partie de la noblesse sicilienne de l'époque. Verga reconnaît donc qu'il n'y a pas de différence de sang et fait de Corrado un enfant trouvé, le chef idéal, noble d'esprit, de la charbonnerie. Cependant, l'auteur des Carbonari ne croit plus à la bonté naturelle du peuple qu'il considère corruptible et pose déjà la question de la participation des couches inférieures mais majoritaires de la population au Risorgimento et au processus politique. Cette question sociale, d'actualité centrale dans l'Inchiesta in Sicilia de Franchetti et Sonnino, quelques années plus tard, en 1876, recevra un traitement autrement profond dans les romans siciliens majeurs de Verga et dans la nouvelle Libertà. Toutefois, Verga semble avoir, dès l'écriture d'Amore et Patria, envisagé son œuvre comme une contribution à l'indépendance et à l'unité italienne.